6h45 sur France Culture, voici les enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier.
Bonjour, aujourd'hui des bruits de bottes à la frontière colombienne du Venezuela.
150 000 soldats, des véhicules blindés, armés de missiles, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, les avait annoncés, ces exercices militaires, rien d'inattendu en soi. Mais pourquoi ce branle-bas de combat? Je vous rappelle les faits. Le 29 août dernier, d'anciens membres des FARC, la guérilla marxiste de Colombie, annoncent reprendre les armes, 3 ans après la signature d'un accord de paix. Le président de Colombie répond aussitôt qu'il lancera une offensive militaire contre ses combattants qu'il affirme être soutenus par le Venezuela voisin. Nicolas Maduro rétorque à son tour. Il annonce placer ses troupes en alerte orange à la frontière, sans qu'on sache très bien ce que veut dire pour lui alerte orange. Bonjour Mathilde Alain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse au CREDA, c'est le Centre de Recherche d'Études et de Documentation sur les Amériques. Vous êtes également membre du collectif NORIA, que nous avons déjà sollicité récemment dans les enjeux internationaux, collectif qui privilégie l'approche de terrain. Mais on va d'abord prendre un objectif grand angle pour commencer cet entretien, Mathilde Alain. Est-ce qu'on a une idée précise aujourd'hui de ce qui lie, en effet, les anciens membres des FARC qui ont annoncé reprendre les armes au Venezuela?
Alors, actuellement, la seule chose que l'on sait, c'est que les FARC ont en effet enregistré une vidéo qui aurait pu être enregistrée depuis la frontière vénézuélienne ou au Venezuela, mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment s'il se trouve au Venezuela. Par contre, ce que l'on sait, c'est que cette frontière a toujours été utilisée par les guerrieros et ex-guerrieros comme une manière de se retrancher, et ils ont toujours circulé dans cette frontière. Ça, ce n'est pas nouveau. Ils ont toujours utilisé cet espace poreux de plus de 2000 kilomètres.
Il y a un peu plus de 10 ans, c'était le journal El País qui avait dit avoir eu accès à des documents trouvés dans l'ordinateur du numéro 2 des FARC qui venait alors de se faire tuer par l'armée colombienne. On avait notamment retrouvé dans son ordinateur des mails d'Ivan Marquez, donc celui-là même qui prend la parole le 29 août dernier dans une vidéo pour annoncer qu'il reprend le combat. Ces mails attestaient de ce que Hugo Chavez, à l'époque, lui avait donné de l'argent et des armes. En tout cas, c'est ce qu'il affirmait dans son mail.
Alors, en effet, il y a pu avoir des relations, du moins politiques, entre l'ex-guérilla des FARC et le gouvernement de Chavez. Par contre, de là à ce que ça ait pu être déterminant dans la lutte armée menée par les FARC, cela est moins sûr. Les FARC ont eu dans le passé différents types de ressources, en grande partie provenant de l'URSS pendant la guerre froide. Et ensuite, ils se sont surtout autofinancés avec la manne de la coca, mais aussi de diverses activités de ponction au niveau des entreprises qui travaillent dans les secteurs miniers, et donc ils n'avaient pas vraiment besoin d'un soutien financier important de la part du Venezuela. C'est plutôt un soutien politique qui a toujours été affiché et utilisé tant par Chavez contre son allié, contre son rival colombien, que par les FARC pour mettre en avant leurs liens internationaux.
C'est vrai qu'Hugo Chavez à l'époque, Nicolas Maduro aujourd'hui, accusent toujours la Colombie de vouloir les déstabiliser. Alors de là à avoir incité d'anciens FARC à reprendre les armes, point d'interrogation, c'est ce que soupçonne publiquement en tout cas le président colombien Iván Duque, d'où les déclarations de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, qui l'accuse de manœuvrer pour déclencher un conflit. Est-ce que le gouvernement colombien d'Iván Duque souhaite un conflit?
Non, je pense qu'à l'heure actuelle, en fait, personne, ni le Venezuela, ni la Colombie, n'ont en réalité intérêt à déclencher un conflit militaire. Cependant, comme toujours, dans ces relations, la rhétorique anti-Duque d'un côté et anti-Maduro de l'autre, et la rhétorique belliciste en général, sert à justifier des politiques internes à chaque État. C'est une constante dans les passes d'armes verbales entre les deux présidents. Et aujourd'hui, on a en plus deux présidents qui sont chacun, pour des raisons différentes, en grande difficulté dans leur pays. Donc, cette rhétorique, elle est réactivée actuellement, notamment à l'aune de la prise de décision d'un certain nombre d'anciens leaders politiques de la guérilla.
La politique intérieure de la Colombie, c'est votre sujet de recherche. On va s'en rapprocher progressivement, mais encore une question plus régionale. Le Venezuela, Mathilde Alain, c'est l'un des dossiers sur lesquels Donald Trump était en désaccord avec son conseiller John Bolton, qui l'a limogé cette nuit. Et on sait combien les États-Unis ont fait et défait des gouvernements en Amérique latine. John Bolton voulait depuis longtemps faire tomber Nicolas Maduro. À l'inverse, la Colombie et les États-Unis sont depuis longtemps très liés. Quel rôle les États-Unis ont-ils joué sur ce dossier, celui de l'accord de paix avec les FARC en Colombie en 2016?
Les États-Unis ont toujours soutenu depuis le début un accord de paix, mais plutôt un accord de paix minimal, c'est-à-dire avec notamment une affirmation très claire quant à l'éradication des cultures de coca. Donc, et avec l'arrivée de Trump, celle-ci s'est confirmée, avec une obsession sur les questions de sécurité et de trafic de drogue. C'est pour cela que Trump s'intéresse à la Colombie et ne s'intéresse pas forcément aux autres aspects de l'accord de paix. Par contre, il y a toujours eu un investissement pendant tout le conflit, une grande partie du conflit colombien, un investissement militaire important des États-Unis en Colombie. Et d'ailleurs, si l'armée colombienne était aussi bien fournie, c'est bien grâce à l'aide américaine.
Les États-Unis avaient trouvé en Iván Duque, le nouveau président colombien depuis l'année dernière, une oreille attentive, puisqu'Iván Duque a été élu en 2018 en promettant de réviser cet accord datant de 2016 et qui mettait fin à un demi-siècle de guerre civile qui a fait 250 000 morts. Comment le réviser? Qu'est-ce qu'Iván Duque a en tête quand il dit qu'il veut réviser l'accord?
Alors, Iván Duque a été élu suite pour mettre en œuvre un accord de paix pour lequel il n'était pas forcément favorable et qu'il n'a pas négocié. Donc, en effet, il y a de nombreux points sur lesquels il n'est pas d'accord. Il a essayé pendant de nombreuses fois de ralentir tout d'abord la mise en œuvre de certaines mesures urgentes, notamment des mesures visant à assurer un avenir politique au parti FARC qui a été créé au moment de la démobilisation, mais aussi pour mettre en place toutes les institutions nécessaires à la juridiction spéciale pour la paix. Lui, le camp Duque considérait que les FARC devaient être traités par la justice ordinaire et non pas par une justice transitionnelle adaptée à la situation de post-conflit. Et donc, il a essayé, par plusieurs manœuvres au niveau du Parlement, de ralentir tout ce processus et donc de ne pas débloquer tous les fonds nécessaires à mettre en place les différents programmes qui sont vraiment urgents dans certaines zones. Et on peut comprendre d'ailleurs la décision de ces anciens chefs des FARC de reprendre les armes, également face à l'indécision et à l'insécurité permanente que connaissent de nombreux ex-combattants dans les campagnes aujourd'hui.
Parce que beaucoup d'entre eux ont été tués ces dernières années, un décompte a été tenu, mais ces anciens FARC qui reprennent les armes, est-ce que ce sont des combattants politiques, comme l'était la guérilla marxiste pendant 50 ans, ou est-ce que c'est un nouveau groupe criminel lié au narcotrafic, comme le dit aujourd'hui Iván Duque?
Alors, en effet, donc on a quatre grands leaders qui apparaissent dans la vidéo publiée. Deux, Iván Márquez et Jesús Santrich sont notamment des leaders plutôt politiques. Ils ont fait vraiment partie des discussions à La Havane, donc on ne peut pas prendre cette tentative à la légère. Et deux des autres leaders sont plutôt des chefs militaires qui sont notamment malheureusement connus pour des exactions très lourdes et pour de nombreux crimes. Et donc, on peut comprendre qu'ils vont peser dans le nouveau jeu territorial. Cependant, on ne sait pas s'ils ont encore des combattants. On ne sait pas si les dissidences des FARC qui existent déjà, c'est-à-dire les dissidents qui n'ont, des groupes qui n'ont pas rendu les armes au moment du processus de paix, ou s'il va y avoir un rapprochement avec l'autre guérilla de l'ELN, ou bien avec d'autres groupes armés. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le parti FARC, qui est bien à distinguer, a tout de suite condamné cette prise de parole et la décision des ex-guérilleros de reprendre les armes, et que de nombreux anciens combattants ont aussi réaffirmé qu'ils continuaient dans le processus de paix et qu'ils continuaient leur processus de réincorporation à la vie civile malgré toutes les difficultés de ce processus.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui, les quelques 7000 ex-guérilleros des FARC qui ont déposé les armes dans cette notamment initiative de leur proposer des projets de réinsertion? Est-ce que ça fonctionne? Comment ça marche aujourd'hui? Quel est le bilan qui a été d'ores et déjà tiré par la presse colombienne et les politiques colombiens?
Alors, il y a surtout de très nombreuses organisations sociales, des fondations qui font un travail important de recherche et qui mettent en place des instruments pour suivre vraiment la mise en place de ces accords de paix. Et leur diagnostic est le suivant. Il y a une partie des ex-guérilleros qui a choisi individuellement de suivre des programmes de réincorporation à la vie civile. Et donc, ceux-ci, on n'a pas toujours des nouvelles précises de ce qu'ils sont devenus, mais en tout cas, ils n'ont pas tous repris les armes. ils ont peut-être rentré dans leur famille, repris également la terre qu'ils avaient, parce que pour la plupart, ce sont des paysans, et d'autres ont choisi de faire partie d'un processus collectif, donc certains au sein des zones de réincorporation et de normalisation, qui sont des zones où ont été construits plusieurs baraquements et des petites maisons, et là, ils ont pu mettre en place différents types de projets. Donc il y a des projets collectifs et qui peuvent très très bien marcher, sauf qu'ils ne sont aujourd'hui sans financement. Donc on a aujourd'hui une situation assez tendue, puisqu'il y a une volonté très forte de ces anciens combattants, mais il n'y a ni financement, et il y a en plus une situation sécuritaire très très tendue. Vous l'avez dit, on est à peu près à 130 ex-combattants qui ont été assassinés depuis la signature des accords de paix.
Chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, est attendue au Venezuela et en Colombie cette semaine. Merci beaucoup, Mathilde Alain, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.
Merci.